Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, reportage à Caracas, où les défilés pro-chavistes ainsi que ceux des partisans de Juan Guaido ont été imprégnés de la colère consécutive à la gigantesque panne électrique qui paralyse encore le pays quand elle n'est pas à l'origine de décès en milieu hospitalier. Le témoignage de la cinéaste algérienne Sofia Djamma, qui se réjouit de la participation des artistes au mouvement de libération et d'émancipation en cours. Puis à la fin de cette édition, nous nous rendrons au cœur d'un défilé parisien auquel ont participé des gilets jaunes, des gilets roses et des militants écologistes. Quand l'un surligne la corruption du régime, l'autre accuse l'impérialisme américain à l'œuvre. La panne électrique qui a maintenu une bonne partie du Venezuela dans l'obscurité deux nuits durant n'a fait qu'alourdir l'atmosphère des défilés de ce samedi. Les deux rivaux, le président autoproclamé par intérim Juan Guaido et le président Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée, ont appelé leurs partisans à défiler. Caracas, Benjamin Delisle.
C'est un bras de fer tendu qui a commencé ce matin entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Nicolas Maduro. Dès les premières heures du jour, des manifestants de l'opposition ont tenté de gagner l'avenue Victoria, point de ralliement de la manifestation convoquée par Juan Guaido. Les forces de l'ordre les ont stoppés. La police bolivarienne aurait même tenté de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène et aurait confisqué la scène sur laquelle devait parler Juan Guaido à la mi-journée. Dans les différents points de ralliement de l'opposition dans la capitale, la foule était plus dispersée à cause de la grande panne d'électricité qui affecte le Venezuela depuis hier. En effet, le métro de Caracas est coupé et beaucoup de Vénézuéliens n'ont plus accès à Internet ni à leur réseau téléphonique depuis jeudi soir. L'information ne serait donc pas passée. Sur l'avenue Libertador, ce sont les chavistes qui se réunissaient ce matin. Une marche anti-impérialiste contre le décret Obama, pris il y a 4 ans jour pour jour, qui faisait du Venezuela une menace pour les États-Unis. Des manifestants qui assurent que Nicolas Maduro a raison lorsqu'il parle de sabotage concernant la grande coupure d'électricité au Venezuela. Pour eux, c'est une nouvelle tentative des États-Unis pour affaiblir le gouvernement de Nicolas Maduro.
À la grande surprise des effectifs des forces démocratiques syriennes, des centaines de personnes, dont de plus en plus déclopés et de blessés, continuent d'abandonner la petite poche de l'organisation État islamique dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie. Shamima Begoum, originaire de l'Est de Londres, déchue de sa nationalité pour avoir rejoint l'organisation djihadiste, a donné naissance à son troisième enfant en février dans un camp de réfugiés après avoir fui Baghouz. Son enfant est mort. Elle avait demandé aux autorités britanniques l'autorisation de rentrer. Le gouvernement a refusé. Selon l'ONG Save the Children, tous les enfants associés à Daesh sont des victimes du conflit et doivent être traités comme tels. Fin de citation. L'équipe de Theresa May n'est pas épargnée par l'opposition. C'est une correspondance de Londres d'Antoine Gignot.
C'est un bébé de 3 semaines, un enfant innocent qui est mort, rappelle chez les travaillistes Diane Abbott, chargée des questions de sécurité. Et cette mort tragique, dit-elle, le gouvernement l'aura sur la conscience comme une tâche. Elle pointe, comme plusieurs associations humanitaires, la responsabilité de Savid Javid. Le ministre de l'Intérieur a validé le mois dernier la procédure de déchéance de nationalité de Shamina Begum, empêchant du même coup son rapatriement et celui du nourrisson sur le sol britannique. Après avoir perdu 2 enfants morts de malnutrition et de maladie, la jeune fille de 19 ans, née dans l'Est de Londres, avait lancé un appel au mois de février. Elle demandait à regagner le Royaume-Uni avec son dernier né, tout en affirmant dans les journaux qu'elle n'avait aucun regret. « J'ai rencontré mon mari en Syrie », disait-elle. « Je n'aurais jamais trouvé quelqu'un comme lui en Angleterre ». Elle minimisait aussi les exactions de l'organisation État islamique en affirmant presque naïvement qu'elle n'avait vu qu'une seule fois des têtes coupées. « Je n'aurais pas dû parler à la presse », dit-elle aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement, lui, juge la mort de l'enfant tragique, mais rappelle que le ministère des Affaires étrangères conseille systématiquement aux Britanniques de ne pas se rendre en Syrie.
Pour une fois, je n'ai pas envie de te quitter, mon Algérie. Cette inscription relevée sur le mur de la capitale, sur un mur de la capitale, dit beaucoup de ce qui nourrit les esprits depuis 3 semaines d'un bout à l'autre du pays. Il n'aura pas échappé aux autorités que la jeunesse est l'une des principales locomotives du mouvement. Et en début d'après-midi, le gouvernement n'a-t-il pas décidé d'avancer et d'allonger les vacances universitaires? Mawien Bordron, vous avez joint la cinéaste algérienne Sofia Djamma. Elle a participé à de nombreuses marches à Alger. Elle est impressionnée de la mobilisation de l'ensemble de la société, y compris du secteur artistique.
Il est nécessaire, il est important, il est urgent, parce qu'en fait, la culture, c'est presque une banalité, de le dire, mais la culture est la conscience culturelle d'une société, elle permet à la société de s'émanciper ou pas. puisque souvent les gouvernements totalitaires, les régimes totalitaires avaient une main sur la culture justement pour empêcher une émancipation. Donc elle est plus que nécessaire aujourd'hui, face à justement cette mobilisation. On doit prendre en charge, en fait, on est d'abord à la fois témoin de ce qui nous arrive, mais demain on va devoir produire quelque chose. On va commencer à la raconter. Pour le moment, je pense qu'il n'est pas urgent de la raconter. Là, l'urgence, elle est de la vivre, cette mobilisation. Les artistes se sont mobilisés tout de suite, ils se sont retrouvés tout de suite au TNA, Théâtre National, à Alger, à Oran. Mais toutes les voix sont nécessaires. Moi, les voix des blogueurs, des influenceurs sont nécessaires. Et puis, il n'y a pas une voix qui compte pas, en fait. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux, en fait. Tout le monde filme et tout est partagé, systématiquement. Même les personnes les plus anonymes deviennent... Moi, il y a une vidéo que j'avais partagée de femmes qui étaient en train de scander dans les rues d'Alger. Elle a été extrêmement partagée.
La cinéaste algérienne Sofia Diama, au lendemain de grandes manifestations d'Algériennes et d'Algériens opposées à une cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Il est 18h06, vous écoutez le journal de France Culture. Une marche blanche en hommage à Julie, cette jeune femme tuée dimanche dernier à Lille-Rousse par son ex-compagnon, a rassemblé cet après-midi quelques 3000 personnes dans sa ville de Haute-Corse. Julie est la 30e victime de féminicide depuis le début de l'année. Quand les causes se rassemblent et font marche commune, à Paris ont défilé des gilets jaunes, des assistantes maternelles et des défenseurs de l'environnement. Le tout selon un code couleur bien précis. C'est un reportage de Manon Clavry.
En première ligne, les assistantes maternelles donnent de la voix. Elles protestent contre la réforme de l'assurance chômage. Elles menacent la compensation que leur verse Pôle emploi en cas de rupture d'un de leurs contrats. Sandrine porte un gilet rose, elle est assistante maternelle dans l'Essonne.
Si on perd les enfants, c'est pas qu'on veut pas travailler, c'est que les parents déménagent, les enfants vont à l'école, donc on a besoin de cette allocation, sinon on peut pas continuer à vivre.
À leur côté, des associations demandent la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Jeanne est étudiante et porte deux gilets de couleurs différentes.
Je porte un gilet violet, c'est la couleur du féminisme. J'ai un gilet jaune aussi quand même, parce que dans les gilets jaunes, en fait, il y a pas mal de femmes. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont les plus touchées par la précarité, en fait, c'est les femmes. Les temps partiels, par exemple, c'est 80% de femmes. Et du coup, les revendications de hausse des salaires, c'est des choses comme ça qui, à mon avis, se rejoignent vachement. Même par exemple par rapport à la taxe carbone, il faudrait plutôt la gratuité des transports en fait. J'aurais pu mettre un gilet vert en plus, mais j'avais pas de gilet vert sur moi.
Peu de gilets verts dans le cortège, mais de nombreux slogans écologistes. Épargner le climat ou encore...
Justice sociale, climat, même combat. C'est complètement lié. Ils ont voulu augmenter le prix de l'essence alors qu'en fait ils n'augmentent pas les taxes sur les avions, sur les gros porteurs de conteneurs, sur les bateaux. Sur Total, ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc. La convergence est nécessaire, oui, puisque le gouvernement a un tout petit à peine reculé en décembre. En mettant les forces ensemble, peut-être que ça arrivera à débloquer un peu.
Toutes ces sensibilités devraient se retrouver le week-end prochain. La date de fin du grand débat sera aussi celle de la marche du siècle pour le climat et de la manifestation anti-racisme organisée par le collectif Vérité pour Adama Traoré.
Justement, s'agissant du climat, un triste anniversaire viendra lundi nous rappeler la catastrophe de Fukushima au Japon et ses interminables impacts sur l'environnement. À Fukushima, les équipes de sûreté nucléaire font aujourd'hui face à une nouvelle question, celle du stockage des eaux radioactives. Thierry Charles est le directeur adjoint en charge de la sécurité à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8 ans après, le site a bien changé puisqu'il y a eu des constructions de bâtiments, notamment un nouveau bâtiment a été construit pour recevoir les personnes qui interviennent. Il y a même, et c'est pas anodin, une cantine sur le site où les opérateurs maintenant déjeunent sur le site. Et également ont été installés des bâtiments pour justement entreposer les combustibles en bon état qui ont été récupérés dans les bâtiments réacteurs, pour entreposer les déchets et surtout pour entreposer les quantités d'eau très importantes qui se sont accumulées au fil du temps sur le site. Pour que la radioactivité ne sorte pas, il faut rentrer de l'eau propre directement. Donc sur le site, vous avez une forêt finalement de citernes, vous avez plus d'un millier de réservoirs, chacun faisant 1000 mètres cubes, qui entreposent des eaux après décontamination. Et le sujet, c'est quel devenir pour ces eaux, sachant que localement, après l'accident, les parties prenantes locales, notamment les pêcheurs, n'ont vraiment pas envie de voir de nouveaux rejets des fluores radioactifs provenir de la centrale.
Quelques mots de météo demain pour refermer cette édition. Les pluies de la perturbation arrivées dans la nuit sur le nord-ouest s'étendront en début de journée. Du Limousin au nord et au nord-est du pays en s'accompagnant d'un vent fort d'ouest, rafales qui atteignent près de 100 à 110 km/h sur le nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il est 18h10, cette édition a été préparée avec Brice Garcia, Anthony Thomasson à la technique.